Combien de temps les tentations ont-elles duré pour Jésus? Est-ce tout le temps qu'il a été au désert, pendant 40 jours, comme le laisse entendre l'évangile de saint Marc, au désert tenté par Satan? Et l'évangile de saint Luc le dit encore plus clairement, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Ou bien, le diable n'est-il venu qu'à la fin, comme le dit l'évangile de saint Matthieu, lorsque Jésus fut dans une situation d'extrême faiblesse, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim et le tentateur s'approcha. L'un n'empêche pas l'autre. C'est la réalité de notre existence. Les tentations font partie de notre quotidien. Mais nous savons très bien qu'il faut des situations extrêmes pour que le diable se manifeste en personne, pour le voir. Saint Marc poursuit en disant que Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quand on compare également avec les autres évangiles, on ne trouve pas de mention des anges chez saint Luc, tandis que Matthieu également les fait venir uniquement à la fin. Une fois Jésus vainqueur, le diable le quitte, des anges s'approchèrent et ils le servaient. Quoi ? Ils ont attendu que le diable s'en aille. Et vous croyez qu'il en va de même pour nous, et en particulier pour ceux qu'on appelle nos anges gardiens ? Vous croyez qu'ils attendent qu'on soit victorieux, que le tentateur s'éloigne, que le diable nous quitte ? La deuxième lecture de ce dimanche rappelle que le diable nous a quittés au jour de notre baptême. Que par notre baptême, nous ne sommes plus en son pouvoir. Que nous pouvons subir toutes sortes d'attaques et de tentations auxquelles nous pouvons résister en toute confiance par la force du Christ. Et c'est pour ça que nous pouvons nous engager résolument dans le carême. Ajoutons ceci, que le baptême donne la protection d'un ange gardien. On peut le dire aux parents comme un argument supplémentaire à faire valoir quand ils rechignent à faire baptiser leurs enfants. Il aura un ange gardien. Alors, certains qui ont eux-mêmes été baptisés vont répondre qu'ils n'en ont pas fait l'expérience. Et c'est une bonne question. Pour nous qui croyons au monde visible et invisible, qui célébrons chaque année après la fête des saints archanges, au début du mois d'octobre, la fête de nos saints anges gardiens. Quelle est notre expérience des anges? Quelle est notre vision, si je puis dire, du monde invisible? Est-ce que vous croyez aux anges? Est-ce que vous croyez que vous avez un ange gardien, qu'il vous aide dans les tentations, un peu en vous retenant par le bras comme un ami? Non, n'y va pas. En vous prévenant, non. Voilà une bonne résolution de carême. Écoutez son ange gardien. Écoutez, vous savez, la petite voix, cette petite voix qui dit, tu peux t'en passer, tu peux t'en abstenir. Résolution de carême, j'écouterai la petite voix qui me dit de faire le bien et d'éviter ce qui fait du mal. Parce que nos anges gardiens non seulement nous protègent, mais nous relient entre nous. Ils nous permettent effectivement d'avancer ensemble. Ils nous aident à prier, à partager, à nous maîtriser. C'est bien cela le carême, la prière, le partage et le jeûne. Mais maintenant, le plus important, c'est de comprendre comment Jésus a triomphé du tentateur et comment il en a triomphé, non pas parce qu'il est Dieu, mais qu'il en a triomphé dans notre humanité. Saint Augustin, dans un sermon célèbre qui est à l'office des lectures bréviaires justement de ce dimanche, le dit de façon magnifique, c'est le Christ qui en toi était tenté. Alors le texte de Saint Marc dit que Jésus venait d'être baptisé. Et nous savons très bien que c'est du baptême de Jean, mais c'est une indication extrêmement forte pour dire que la grâce du baptême, c'est la base du combat spirituel. C'est la force du Christ que nous avons reçu à notre baptême, et nous en savons, notamment par saint Paul, les armes, ce que saint Paul appelle l'équipement de combat. Il y a 7 armes qu'il décrit au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, extrêmement parlante, c'est très visuel. Le ceinturon de la vérité, contre tout ce qui est de l'ordre du mensonge. La cuirasse de la justice, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Les chaussures de l'annonce de l'Évangile. Le bouclier de la foi, il dit, contre les flèches enflammées du diable. Le casque de l'espérance. L'espérance du salut. Bien sûr, l'image la plus classique, le glaive, l'épée de la parole de Dieu. Et puis, le 7e, il ne faut pas l'oublier, la fidélité dans la prière. Peut-être il faut vérifier qu'on a tout ça. Voilà une deuxième résolution de carême. Vérifier notre équipement de combat. Voir quelles sont là où les armes qui nous manquent, qui nous font défaut. Mais pour cette carême, je vous ai proposé au mercredi des cendres un fil conducteur qui est celui de la sainteté. De voir comment l'appel à la sainteté, qui est le grand appel du Concile Vatican II, est d'abord un appel à la conversion. Convertissez-vous, dit Jésus. En quoi consiste la conversion? Eh bien, très clairement à comprendre ce qui a permis à Jésus de vaincre. Ce qui lui a permis de vaincre la solitude. 40 jours au désert, la faim, la soif, la peur, le diable. Nous demandons parfois ce qui lui a permis de tenir bon. Comment faire comment on fait dans les épreuves? Jésus est allé au désert poussé par l'Esprit Saint. Il est envoyé par son Père. C'est sa mission de salut. Et la force qu'il montre, la force dont il fait preuve, vient de sa mission. C'est la mission qui donne la force, et non pas la force qui fait qu'on reçoit une mission. C'est bien pour cela que saint Paul dit que ce qu'il y a de plus faible en ce monde, c'est ce que Dieu a choisi. Nous n'avons pas été appelés et choisis en fonction de nos capacités. Mais la mission que le Seigneur nous donne, c'est ça qui nous donne de la force. Pour le comprendre, rappelez-vous ce texte extraordinaire de la parabole du bon samaritain. Vous vous souvenez du début, il y a un expert de la loi qui vient interroger Jésus pour savoir ce qu'il doit faire pour avoir le bonheur éternel. Comme c'est un docteur de la loi, Jésus lui dit, dans la loi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il dit, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, lui dit Jésus. Fais ainsi et tu vivras. Mais l'autre, et l'expression est forte, l'autre voulant se justifier, l'autre qui cherche la petite bête, demande, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Et vous savez, le retournement de la parabole qui à la fin demande, « Lequel, à ton avis, s'est fait le prochain du malheureux ?» Le problème n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais de qui est-ce que je me fais le prochain. La grande leçon de la sainteté, c'est la force extraordinaire que des hommes et des femmes tout à fait ordinaires, des hommes et des femmes comme nous, qui n'avaient pas plus de compétences, pas plus de talents, pas plus de moyens, ont trouvé, bien sûr dans la prière, mais dans l'exercice de la charité. C'est ça, la base de notre force. Saint Vincent de Paul a connu 2 années de tentation, de nuit de l'esprit terrible. Il a fait 2 choses. Il a cousu dans son manteau, dans son surplis, le credo, l'acte de foi de l'Église. Et chaque fois qu'il était attaqué, et qu'il y avait d'autres personnes et qu'il ne pouvait pas réciter le credo, il mettait simplement sa main sur le texte du credo pour se réfugier dans la foi de l'Église. Ça, c'était qu'une partie. L'autre chose qu'il faisait systématiquement, il posait un acte de charité. La charité en acte, dans les épreuves, dans les tentations, dans les attaques, c'est notre plus grande force. Il y avait l'autre jour une amie qui me demandait, elle me disait, mais dans tous les malheurs que nous vivons, quand on nous accompagne, quand on est dans des proches, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être affecté, démoralisé à notre tour? Et puis tout d'un coup, avec une intuition incroyable, elle est d'une autre religion, elle n'a rien à voir avec l'Église, elle fait du recrutement et c'est pour ça que je prenais cet exemple. Tout d'un coup, elle me dit, avec cette intuition, elle me dit, « Ah, quand je rends service à quelqu'un, j'en éprouve une grande joie. » Elle aurait pu dire, « J'en éprouve une grande force. J'en éprouve une grande force. Vous voulez de la force? Mettez-vous au service des autres. Posez un acte de charité. Jésus au désert, il est vainqueur du mauvais, il est vainqueur du diable, par sa consécration totale à sa mission. » Et bien de la même façon, même tout seul, dans le secret de sa chambre, même quand on est vraiment seul, quand on tient bon, tout ce qu'on fait pour tenir bon, pour rester fidèle, c'est un secours, c'est une aide que l'on rend à tous ceux qui n'y arrivent pas, à tous ceux qui voudraient tant être libérés. C'est un message si fort que nous envoyons à tous ceux qui ne se sentent pas aimés. Qui est mon prochain? Celui que nous aidons quand nous résistons aux tentations. Celui que nous sauvons par notre propre conversion. Voyez, il ne s'agit même plus d'une résolution, c'est un retournement, c'est une véritable révolution. C'est ça la révolution de Carême. C'est notre conversion.